Ce podcast est rendu possible grâce à la Typographie, réalisateur d'identité visuelle et de web design. Pour plus d'infos, lien dans la bio.
Ici, c'est plutôt des cépages sudistes ou nordistes ?
Plutôt nordistes, avec l'introduction de sudistes dans les années 2000.
Et plutôt vanguard ou immédiat ?
On fait un peu les deux, mais en volume, ce sont plutôt des vins de plaisir à boire dans l'année et les deux ans, sur à peu près 80% du volume de la gamme, et les 20% restants, on peut considérer que ce sont des vins de garde.
Nous avons défini, sinon étudié,
le wine, le vin.
C'est la terre, c'est aussi le soleil.
Des champis de vinesse.
Et si un jour, on vous donnait la possibilité de pouvoir comparer les terroirs basaltiques et granitiques ? Et imaginez qu'en plus, ce soit avec le même cépage. Vous iriez où ? On a répondu à cette question et direction les Côtes du Forêt, au domaine de la Madone, pour découvrir cette appellation et le travail de Gilles Bonnefoy. Bonne écoute. Bienvenue dans la Voix des Vignes, est-ce que tu peux te présenter ?
Je m'appelle Gilles Bonnefoy, j'ai 51 ans, je suis né à Chandieu et je suis vigneron dans cette commune depuis 1997, puisque mes parents n'étaient pas ni agriculteurs ni vignerons. Donc ça a été une installation lente, laborieuse, parsemée d'embûches, qui aujourd'hui nous permet d'exploiter un domaine de 12 hectares et demi, avec une petite moitié sur des sols volcaniques, environ 5 hectares et demi, et le reste sur des granites de différentes origines. Des dacites contenant du calcaire, des migmatites contenant de la, des silicates d'alumine, du mica noir, et de la diorite, le micro-granit classique de chez nous.
Et en termes d'encépagement, du coup, sur ces terroirs volcaniques, qu'est-ce qu'on retrouve ?
Alors, le cépage des Côtes du Forêt, c'est le Gamay, Gamay noir à jus blanc. Autour de ce Gamay noir à jus blanc, on avait souhaité, voilà une dizaine d'années, retrouver les racines locales qu'on appelle Gamay Saint-Romain. On y est arrivé et on a implanté aujourd'hui deux conservatoires, un sur le Forêt et un sur le Rouennais, chez Stéphane Sérol. Et le Forésien se trouve sur mon domaine. Donc on a 66 origines différentes de Gamay qu'on a fait assainir et vérifier d'un point de vue bactériaux et sanitaires par des organismes certifiés, la Sicarex Beaujolais notamment et l'IFV à Montpellier, de manière à obtenir des individus sains qu'on a mis en terre en 2021 pour une partie et on devrait terminer la plantation puisqu'il y a eu quelques ratés au niveau greffage cette année. Donc à l'origine, on a beaucoup planté de Gamay Beaujolais dans les années 2000. Moi, j'en avais planté beaucoup. Un petit peu de Gamay Saint-Romain à l'époque, parce qu'on avait déjà un conservatoire en place à Boin-sur-Lignon. Donc, j'avais pu faire une parcelle de ma salle forésienne à l'époque. Et puis, depuis 2016, maintenant, toutes les replantations qu'on a réalisées sont issues de Gamay Saint-Romain. Et on a aussi, dans les années 2000-2010, durant lesquelles la mode n'était pas au Gamay, on a tous planté des cépages différents. Dans mon cas, ce fut Roussanne, sur une pente volcanique, plein sud d'un volcan, 45% de pente. Et on a planté aussi des Sauvignons en 2011, moitié gris, moitié blanc, à l'inverse, sur des sols volcaniques aussi, mais plutôt sur un pied de coteau est, plutôt frais.
Et du coup, quel type d'agriculture tu pratiques ?
Alors, on est en bio depuis 2001. On a fait une formation en biodynamie avec Pierre Masson en 2005. On commençait un peu la biodynamie à cette époque-là, mais on a attendu d'avoir fini parce qu'on était en travaux au niveau de la cave et de la maison et qu'on en faisait beaucoup par nous-mêmes. On a attendu 2008 pour acheter du matériel et se faire certifier Déméter. Donc okay. On est Déméter depuis 2008.
Et sur le domaine, tu travailles tout seul ou t'es aidé ?
Ouais, bien sûr. On a donc il y a une personne qui est au bureau, Sandra, qui est mon assistante, à peu près 20 heures par semaine. Stéphanie, à plein temps, à pied dans les vignes, qui gère la troupe quand je ne suis pas là et qui taille 80% de la surface. Et Thibaut, qui est tractoriste à plein temps lui aussi, qui vient donner un coup de main quand, quand il a un peu de temps à pied dans les vignes. Mais voilà. Et idéalement, il nous faudrait presque un mi-temps, voire un plein temps supplémentaire. Si une bonne récolte s'annonce, on pourra envisager l'embauche d'un salarié supplémentaire permanent. Et en termes de saisonniers, donc on vendange tout à la main, on emploie environ 25 personnes pendant 10 jours pour couper. Et à cette période-là, on a entre 2 et 5 personnes qui nous donnent un coup de main pour les bourgeonnages.
On aurait aimé peut-être que tu nous parles un petit peu de l'appellation Côte du Forêt, que tu nous la présentes, peut-être aussi que tu nous mettes sur une carte de France vraiment d'où ça part, où ça se termine un petit peu pour que ce soit plus clair.
Donc le vignoble des Côtes du Forêt se situe dans la vallée de la Loire. Le vignoble, c'est le vignoble le plus en altitude sur le fleuve. Quand on remonte la rivière Loire, le fleuve Loire, il n'y a pas de vigne plus en altitude, en tout cas en répertorié en vignoble AOP. Il y a quelques parcelles de vignes en Haute-Loire, mais il n'y a pas à revendiquer en AOP. On est à des altitudes variant entre 400 et 600 mètres, voilà, sur des sols, comme on l'a dit précédemment, majoritairement granitiques, avec des résurgences volcaniques, puisqu'il y a environ 105, c'est pas environ, il y a précisément 105 volcans répertoriés dans le forêt.
Et toujours, et ces volcans sont comme le Massif Central, j'imagine, endormis ou éteints.
A priori, oui. On avait fait intervenir les géologues de l'école des mines de Saint-Étienne et on est sur des failles volcaniques plutôt stables. Mais rien n'est sûr en volcanisme en Auvergne. Il y a des volcans qui pourraient se réveiller dans les siècles qui viennent. A priori, chez nous, on est moins sur des failles actives que côté Auvergne.
Et juste pour rebondir un petit peu sur cette altitude et ton travail à toi, on s'est baladé sur... on allait voir la Madone, ouais. Et on a vu qu'il y avait des vignes qui, apparemment, tu vas me dire si j'ai tort ou pas, mais sont les siennes, ouais. Et qui sont sur une pente assez incroyable. Comment est-ce que tu travailles ça? Est-ce qu'il y a des problèmes d'érosion?
Alors... Oui, on a planté en 2001 une parcelle sur la face sud d'un volcan, dans la coulée de lave. Donc on est à peu près à 45% de pente. On arrive à tout mécaniser en tracteur. C'est pas toujours simple. Et bizarrement, alors c'est impossible d'y aller après une pluie, et c'est très compliqué, comme les temps derniers, là, quand les sols étaient très très secs. Puisqu'il n'y a pas du tout de portance, et là il a enfin plu ce week-end, donc on va retrouver un peu de portance. On va devoir traiter mardi et mercredi. Donc on va, grâce à la pluie de les 25 mm de samedi-dimanche, on va pouvoir travailler avec un peu plus de sécurité dans des pentes comme ça. Dans le forêt, il y a eu une volonté de replanter les volcans, de replanter, parce qu'autrefois il y avait de la vigne partout, hein. Juste pour faire une aparté historique, la période faste en termes de surface plantée dans le forêt, c'est l'arrivée du phylloxéra qui a dévasté les vignobles sudistes dans les années 1850 à 70, ce qui a engendré une pénurie de vin phénoménale en France, et des vignobles comme les nôtres, plus en hauteur, un peu enclavés au milieu de montagnes, n'ont vu arriver que le phylloxéra dans les années 85-90. Donc il était assez simple à l'époque, quand on manquait de vin, de labourer le pré à côté et de bouturer finalement. Quand on taillait l'hiver, on bouturait quasiment en direct et 2 ou 3 ans après, on avait du vin. L'anecdote intéressante, c'est que mon père m'a toujours expliqué que la maison familiale, la ferme Bonnefoy, avait été payée par une récolte de vin et de pommes, et elle date de 1872. Et c'est une bâtisse imposante de 13 par 13, sur le hameau du Pizet, là, sur 3 niveaux. Donc si on devait aujourd'hui imaginer faire la même chose, il faudrait vraiment qu'on fasse une grosse récolte. Mais voilà, l'époque faste de la vigne correspond à cette période-là. Ensuite, le phylloxéra est arrivé et on a eu la période hybride qui a été, dans la plupart des vignobles français, rapidement remplacée dès que le greffé soudé sur plan américain est apparu. Mais il s'est avéré que chez nous, on a continué à travailler les hybrides et on en trouve. On a des collègues qui en font, le domaine vin épique. On en trouve encore pas mal de parcelles. Alors ils ont été très très dénigrés, ces hybrides, et actuellement, de par leur résistance à pas mal de maladies, leur rusticité, ils reviennent un peu, peut-être pas à la mode, mais il y a un regain d'intérêt autour de ces cépages-là. Et puis, dans les années 50-60, la cave coopérative s'est créée, comme dans beaucoup de vignobles. La notion de vin de qualité était mise en avant, et on se rendait compte que le savoir-faire dans les vignes était encore là. Les gens savaient travailler la vigne, mais alors en vinification, c'était très compliqué. Donc on a vu plein de vignobles comme les nôtres, je pense à la Côte-Rouennaise, aux Côtes d'Auvergne, Saint-Pourçain, qui ont été sauvés par la mise en place de caves coopératives dans les années après-guerre. Et dans cette mouvance coopérative, à une époque un peu plus tardive, c'est-à-dire dans les années 80-90, pour faire le lien avec ce qu'on disait sur les volcans, a été décidé de restructurer les formes des volcans en terrasse. Et il y a eu 3 ou 4 gros volcans plutôt dans le nord de l'appellation, sur Marcilly, Marcoux, et c'est tout. Ouais. Marcilly, Marcoux, des terrasses de craie de manière assez brutale, on va dire, d'un point de vue agronomique. Et aujourd'hui, malheureusement, ces terrasses, elles sont pour la plupart arrachées. On s'est rendu compte que pour faire des terrasses, il fallait les faire d'un point de vue agronomique intelligemment. Et à l'époque, elles avaient été faites à la pelleteuse très rapidement, sans respecter les horizons, en mélangeant la mauvaise terre avec la bonne et en plantant dans la terrasse à l'endroit où il ne fallait pas planter. C'est-à-dire soit dans le talus, ça poussait trop, soit en pied de talus dans la terre, dans la roche mère, et là ça poussait pas du tout. Donc toutes ces plantations en terrasse ont servi un peu d'exemple pour faire comprendre aux gens qu'il valait mieux essayer de planter dans la pente. Alors nous, 20 ans après, on voit un peu les problématiques liées au choix qu'on a fait, c'est-à-dire planter dans le sens de la pente sans terrasse. Et pour être très clair, on a commencé à remonter de la terre. On a acheté un appareil qui est assez simple d'utilisation, ce qu'on appelle une pelle à terre derrière un tracteur. On a remonté de la terre pour la première fois cette année, sachant qu'on est dans une région très orageuse, donc on a régulièrement de gros orages estivaux qui font descendre un peu de terre. Le gros avantage des sols volcaniques, c'est que c'est très argileux, avec beaucoup de bombes volcaniques, de morceaux de basalte qui forment, mélangés à l'argile, une espèce de nougat, et ce sont des sols qui résistent très bien à l'érosion. A l'inverse, on a juste à côté, dans la même parcelle, le côté montagne des Liamais, qui sont sur une base volcanique, mais avec beaucoup de sable. Là, on a plus de problèmes d'érosion. Mais si on doit faire sur 20 ans, si on doit faire le bilan, est-ce qu'on a bien fait de planter dans la pente, est-ce qu'on aurait dû planter en terrasse, j'ai aucun doute sur le choix de la pente, qui était le bon. Si on avait dû le faire en terrasse, je pense que les vignes ne seraient pas aussi belles qu'elles le sont actuellement.
Okay. Et ça, c'est dû aussi peut-être au changement climatique qui arrive et qui demande perpétuellement de voir les choses autrement.
Ouais, le changement climatique, on en discute régulièrement lors de nos réunions Forêt-Rouennais, va nous imposer de réformer les zones AOP, de demander une réforme des zonages AOP, puisque planter de la roussanne chez nous il y a 20 ans, c'était quasi de la folie d'un point de vue maturité, et il fallait absolument la positionner sur des faces sud de volcan pour espérer la voir mûrir. Aujourd'hui, les faces sud de volcan, elles craignent le sec. Ça a beau être des terrains argileux dans lesquels les racines peuvent descendre facilement, arriver à un moment, quand il ne pleut pas pendant 2 mois d'affilée, les raisins sèchent sur pied. Parce que terrain noir, parce que exposition plein sud et dénivelé qui fait que l'eau n'est pas absorbée par les sols comme elle le devrait suite à un orage. Donc on se pose de vraies questions sur les zonages. On a déjà interrogé l'INAO pour envisager une modification de la délimitation parcellaire AOP. Et on a eu une réponse qui est quelque part logique, mais assez frustrante. C'est vous avez planté aujourd'hui à peine 10% de votre zonage AOC. À Chambieu, il y a 350 hectares classés. Il y a environ 15 hectares plantés, donc on est même en dessous de ce pourcentage-là. Et vous nous demandez de modifier les zonages. Donc, c'est un dossier qui sera difficile à défendre. C'est Romain Père, mon collègue de Villemontais dans le Rouennais, qui est chargé de faire comprendre ça au comité INAO. Et en même temps, on se rend compte que si on n'évolue pas dans nos pratiques, dans nos choix de parcelles, à un moment donné, en continuant à planter des coteaux sud et très pentus, bah, je pense qu'on va carrément voir les vignes crever, quoi. Cette problématique, elle est présente dans le sud depuis longtemps. Hein. Avant, il y avait de la vigne en terrasse sur les coteaux. Maintenant, on la retrouve plus que dans les fonds de vallon, là où il y a un peu de fraîcheur. On risque d'avoir ça chez nous à l'échelle 5-10 ans, de manière quasi sûre. Quoi.
Et même dans l'idée, si des cépages beaucoup plus sudistes étaient plantés sur ces coteaux-là, est-ce que ça pourrait permettre de faire survivre ces pentes et d'avoir encore des vins sur ces pentes-là, ou même ce serait compliqué, je pense, par exemple, à des grenages, des carignans, des choses comme ça, où ça paraît encore fou de...
Ouais, on a des collègues qui ont tenté la Syrah. Alors, pas sur des pentes aussi abruptes, sur des beaux coteaux, plutôt est. Bon, en année chaude, ça fait de bons vins, il faut le reconnaître. Hein. Jamais des vins aussi puissants et capiteux qu'en vallée du Rhône, mais plutôt sur l'élégance et la finesse. Par contre, en année froide comme 2021, froide et pluvieuse, ils ont fait des rosés. Ouais. Il n'y avait pas moyen de faire des rouges avec ça en vendangeant ça fin octobre, non. Donc, la Syrah, c'est encore un peu tôt. Le Grenache et le Carignan, ouais, dans 30 ans. Et les implanter sur ces coteaux, on va toujours avoir les mêmes problématiques de sec. Je pense qu'il faut envisager, pour les coteaux en tout cas, deux cas de figure. La partie moyenne et basse des coteaux peut être toujours plantée dans le sens de la pente, ce qui facilite quand même grandement le travail. Et la partie haute devrait être travaillée en terrasse si on veut continuer à la travailler. Puisqu'une terrasse bien faite, elle emmagasine de l'eau à chaque pluie, puisqu'on fait pencher la terrasse du côté talus, et ça fait une réserve hydrique assez conséquente à ce moment-là. Alors que nous, on le voit dans le haut de la Madone, là en ce moment c'est du béton, quand la pluie arrive, bah, elle ruisselle et il n'y a pas d'infiltration d'eau. Donc la terrasse bien faite, le bon endroit pour planter les cèpes, et l'orage qui va retenir la flotte, ouais, ça peut marcher pour la partie haute.
Et quels pourraient être les obstacles d'avoir ces nouvelles parcelles autorisées à planter de la vigne? Parce qu'on voit ici qu'il n'y a pas que la vigne qui est prédominante, c'est pas comme certaines régions ailleurs. Il y a d'autres AOP qui pourraient mettre un frein ou d'autres types d'agriculture?
Alors il y a deux AOP sur le territoire du Forêt, il y a la Fourme de Montbrison et les Côtes du Forêt, mais qui ne sont pas sur des territoires mixtes. Le zonage AOP Côtes du Forêt correspond à des villages de coteaux, qui vont du sud de Saint-Georges-Hauteville jusqu'au nord à Saint-Germain-Laval. Donc c'est vraiment une bande dans un axe nord-sud où les villages sont en enfilade. Et à l'inverse, l'AOP Fourme de Montbrison démarre au-dessus. C'est au-delà des 600 mètres d'altitude pour l'AOP Fourme de Montbrison. Donc il n'y a pas de concurrence entre les deux AOP. Les difficultés qu'on rencontre quand on veut démarcher des propriétaires pour... soit acheté, soit loué en vue de planter de la vigne, c'est essentiellement lié au foncier à bâtir, puisqu'on est dans à proximité d'une ville qui s'appelle Montbrison, qui est assez prospère économiquement, où il fait bon vivre, avec un marché très connu, magnifique, et non loin non plus d'une ville qui s'appelle Saint-Étienne, qui à l'inverse fait fuir un peu les habitants. On est à 30-35 minutes de l'entrée de Saint-Étienne. Donc il y a une forte pression urbaine sur toutes ces belles parcelles à planter coteau est, voire nord-est, qui fait que bah, les propriétaires, quand on leur propose entre 3 et 5 000 euros à l'hectare pour planter de la vigne, ils se disent bah non, parce que si ça passe à bâtir, on va passer à 800 000, 1 million d'euros l'hectare. Donc on les comprend. Et c'est assez frustrant parce qu'on a du potentiel viticole inexploité chez nous. Je vous disais 350 hectares plantables dans le forêt et 15 plantés actuellement. On se dit que bah, ça doit être facile de trouver pour installer des jeunes. Eh ben non, ça l'est pas, parce qu'il y a toujours cet espoir que dans la tête des propriétaires que leur parcelle passe à bâtir. Entre-temps, au niveau de l'agglomération Loire-Forêt, on a rencontré Rouennais Agglo, donc l'équivalent sur le Rouennais, qui a mis en place un PAEN, périmètre d'aménagement des espaces naturels, voilà 10 ans sur le Rouennais, et a été acté voilà 2 ans sur le Forêt, la mise en place du même périmètre de protection des terres agricoles. Pour faire simple, on va décider d'un zonage agricole et personne ne pourra faire évoluer cette classification. Donc on préserve la vocation agricole de terre, ad vitam aeternam, et on se rend compte sur le Rouennais au bout de 10 ans que des propriétaires qui étaient bloqués en se disant, toujours la même réflexion, j'attends que ça passe à bâtir, à chaque révision de PLU sont allés voir leur maire en leur demandant de passer le terrain à construire, et le maire leur a dit, mais je t'ai déjà dit la fois d'avant que ça pourrait plus passer à bâtir, donc n'insiste pas. Et on a vu ces gens-là se rapprocher de viticulteurs qui avaient fait la demande pour acheter en leur disant, bon allez, on te vend la parcelle et ça sera de la vigne. Donc ça sera une démarche de longue haleine qui va prendre 10 ans, 15 ans avant de porter ses fruits, mais qui permettra d'arrêter cette spéculation immobilière qui bloque complètement l'arrivée de jeunes vignerons, puisqu'on a régulièrement des demandes et qu'on est infoutu de trouver, de mettre à disposition des terres à des gens qui ont envie d'en vivre.
Parce que vous êtes combien de vignerons sur les Côtes-du-Forêt et je ne sais pas, sur les 10 dernières années, combien de jeunes, combien de nouveaux se sont installés ?
Alors sur le Forêt, il y a 150 hectares plantés environ aujourd'hui. Il y en a peut-être un peu plus parce qu'il y a eu quelques plantations sur les 2 dernières années. Environ 70 hectares sont travaillés en cave coopérative, le groupe Agami, qui est basé à Trelin. Et dans cette cave coopérative, il y a 2 ou 3 coopérateurs qui étaient en âge de retraite, qui ont trouvé repreneur. Donc on a un renouvellement là aussi très actif au niveau de la coopération, donc ça c'est une excellente chose. Et puis, en dehors de ça, sur les 80 hectares restants sont exploités par 10 vignerons, sachant qu'il y en a 2 qui sont en phase d'installation, presque un troisième. Donc on est vraiment dans une période où on a plein de projets, de gens motivés qui viennent nous voir pour savoir si des exploits seraient à reprendre ou des terres à planter. Voilà, on est à un tournant. Et les vins plaisent, le gamay revient à la mode, le territoire reste abordable en termes d'acquisition, de prix d'acquisition. Voilà, c'est à nous, avec nos élus, de proposer et de mettre en place des solutions pour que ces gens-là puissent trouver ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire des terres pour exploiter et pour vivre.
Et je voudrais revenir un petit peu sur ce que tu nous as parlé, le basalte et les granites. Est-ce que c'est des types de sols qui sont plutôt rares en France ? Et est-ce que tu pourrais nous faire une différence tant sur les deux en termes géologiques et puis goût aussi, ce ouais. que ça apportera
Alors, des sols volcaniques, il y en a pas mal finalement en France. Mais alors, il y en a dans pas mal de régions, mais rarement sur de gros spots. Si on prend l'exemple du Forêt, actuellement, je crois qu'il y a à peu près 10% des surfaces plantées dans le Forêt qui le sont sur volcan. Parce qu'en fait, nos volcans sont d'assez petite taille, donc n'ont pas craché sur des diamètres, des périmètres trop importants, ce qui fait que des sols vraiment volcaniques, il y en a assez peu. Il y en a beaucoup en Auvergne, il y en a un peu en Muscadet, avec les gabbros, il y en a pas mal en terrasse du Larzac, autour du lac du Salagou. un peu en Alsace. Le Rangaine de Tann est un volcan. Le Mont Brouilly, a priori, ne serait pas un volcan. J'ai toujours pensé que c'en était un, mais on considère que ces volcans, quand il y a eu la lave qui a coulé, et il semblerait que ce soit juste une poussée de magma, mais sans qu'il y ait eu d'éruption. Bon, là, on est sur des appréciations de professionnels.
C'est précis, là.
C'est précis. Ouais. Voilà, donc du volcanisme, il y en a. Il y en a pas mal. En surface, pas énormément, mais dans pas mal d'endroits. Et puis du granit, par contre, il y en a énormément. La caractéristique du granit, c'est l'acidité des sols. Et il y a des cépages qui sont plus adaptés à ces sols-là que d'autres, notamment le gamay, la syrah. Chez nous, c'est le gamay. Et après, on a différentes familles de granit. Si on, je l'ai dit brièvement dans la présentation du domaine, on a des granits qui contiennent bizarrement un peu de calcaire, c'est la dacite, ça c'est plutôt rare. Et puis à l'inverse, on a chez nous des granites qui sont très foncés, très noirs, puisqu'ils contiennent beaucoup de mica noir. À l'inverse de la côte rouennaise ou du Beaujolais, qui ont des granites beaucoup plus clairs, voire roses, qui contiennent moins de mica noir. Mica noir, c'est tout simplement silicate d'alumine, c'est l'argile. Donc le forêt, sur notre domaine, on a des sols qui vont de 25 à 35% d'argile, ce qui est quand même très fort. La moyenne sur la côte rouennaise, c'est de 7 à 15%. Donc voilà, on a vraiment des styles de granit très différents. Pour rester sur le goût que ça va amener au vin, je dirais qu'on dit souvent le réduit forésien. Alors, moi, j'aime pas dire réduit, mais j'aime bien dire le grillé forésien. Effectivement, je pense que les sols plus lourds, plus argileux, vont générer des vins un peu plus structurés, donc un poil plus tannique, et souvent avec des connotations grillées, fumées, toastées. Ça, c'est vraiment la caractéristique du granit. Et après, l'aspect volcanique des sols, lui, va amener davantage sur les rouges des notes un peu florales. Pivoine violette, essentiellement, grosse fleur rouge. Et à l'inverse, les sols granitiques, on sera plus sur du fruit rouge classique, groseille, framboise, fraise. Voilà, ça c'est les grandes tendances. Et puis après, ce qu'on retrouve uniformément, que ce soit en blanc ou en rouge, sur les sols volcaniques, alors j'aime pas dire minéralité, parce que ça veut tout dire et rien dire, je préfère parler de salinité. On a, nous par exemple, sur des millésimes comme 2018 ou 2020, des acidités qui sont pas bonnes du tout, parce que des étés très chauds sur nos blancs, et pour autant, les gens nous disent « Waouh, qu'est-ce que c'est frais !» Il y a en fin de bouche un côté salin, sapide, qui rafraîchit le palais. Et ça, c'est vraiment la chose qu'on perçoit le plus facilement sur les blancs issus de sols volcaniques.
Et justement, on parle un petit peu de sols volcaniques. On a parlé un petit peu avant de l'installation des jeunes. Il y a quelques années maintenant, tu vas pouvoir nous en dire plus. En tout cas, je sais que toi, tu fais partie de l'association La Loire Volcanique. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une association.
Oui.
Mais est-ce que tu peux nous parler de ce qu'éventuellement cette association apporte et quel est son objectif? Je crois qu'on en a parlé dans d'autres épisodes, mais c'est bien de faire un petit rappel.
Oui. faut resituer l'histoire du forêt, qui est indirectement à l'origine de Loire Volcanique. Ça peut paraître bizarre, mais... Okay. On avait des tensions très fortes sur notre vignoble entre coopérateurs et indépendants dans les années 2005-2010 qui ont amené notre ODG, notre association qui porte la OP, à avoir un président démissionnaire et une situation qui allait nous faire perdre l'usage de l'AOP, puisque quand on demande une AOP, l'INAO exige qu'un PV d'assemblée générale annuel lui soit communiqué. Pas de président en 2010. L'INAO nous demande est-ce qu'on peut avoir votre PV d'AG? Impossible de leur fournir, évidemment. Donc, moi, j'avais quitté le syndicat deux ou trois années plus tôt parce que c'était trop conflictuel. On ne va pas épiloguer là-dessus entre nous. Et je me suis rapproché des collègues rouennais. C'était à l'époque Philippe Vial, le président de l'association viticole rouennaise. Nous, on était Fédération viticole du Forêt à l'époque. Et j'ai dit à Philippe, écoute, on est au bord du gouffre côté forêt. Est-ce qu'on pourrait envisager de fusionner nos syndicats pour Et ben passé, eux ils étaient à 200 hectares, nous on était à 150, avoir une taille de structure qui nous permette de mutualiser des choses, de prendre une agence de com et une agence de presse. Voilà. Donc on est allé assez vite dans notre démarche puisque l'approche a été faite en 2010 et fin 2012, on a pu créer l'association viticole Forêt Rouennais, AVFR, qui rassemblait d'une part l'AOP Côte du Fort et l'AOP Côte Rouennaise, mais aussi l'IGP Urfé, puisque on avait créé dans les années 80 une IGP, à l'époque 20 pays, Urfé, puisqu'il y avait une famille de nobles qui était dans le nord du Forêt et qui possédait des terres dans le Rouennais et dans le Forêt, la famille d'Urfé. Et on avait utilisé ce nom-là pour fédérer et créer une IGP qui soit plus facile à gérer à deux vignobles. Donc on s'est regroupé AOP Forêt, AOP Rouennaise, IGP Urfé, et on avait des membres qui ne revendiquaient aucun de ces trois SICO, qui faisaient des vins de table. Donc ça a été un peu un casse-tête, mais on a réussi à imbriquer un collège vin de France dans notre association. Et on a été les premiers en France à avoir une association ODG portant un collège vin de France. Donc ça a fait un peu cas d'école. On a notamment les Côtes d'Auvergne qui nous avaient demandé nos statuts. Ça a mouliné un peu au niveau national à l'INAO pendant quelques temps. Et c'était vraiment une volonté de notre part de dire on est une association de vignerons, on n'est déjà pas nombreux, si en plus on se tire dans les pattes entre ceux qui font de l'AOP, l'IGP et les vins de France. Donc on a réussi à mettre ça en place, ça tient plutôt bien, puisque la sauce a 10 ans aujourd'hui. Et voilà, donc à l'origine de Loire Volcanique, il y avait déjà ce rapprochement entre Forêt et Rouennais qui a été un succès. Et après on s'est dit, même en Forêt Rouennais, quand on a pris pendant 5-6 ans une agence de presse, une agence de com, on avait vu un peu tous les journalistes qu'il fallait voir sur le plan national, international, et puis on avait du mal à les faire revenir en quelque sorte. Ils étaient venus, ils avaient vu nos deux vignobles, et puis bon, on était d'une taille tellement petite que ça manquait de lisibilité et d'attrait. Donc on s'est rapproché des collègues auvergnats et saint-pourcinois pour leur suggérer l'idée d'une interprofession. Et là on a mandaté une Supagro Montpellier, donc un cabinet d'études, pour nous aider à réfléchir sur le bien fondé de cette idée-là. On a travaillé 2 ans en se retrouvant régulièrement animés via Supagro Montpellier entre vignerons de ces 4 vignobles. Et à l'arrivée, on a choisi un nom qui s'appelait Loire Volcanique. Et deux des 4 ODG, tout d'abord Saint-Pourçain puis Côte d'Auvergne, ont décidé de se retirer de ce travail collectif qui visait, je vous le rappelle, à créer une interprofession. Puisque, je ne l'ai pas dit, mais chaque vignoble en France est rattaché à une interpro. C'est Inter-Rhône dans la vallée de la Loire, c'est le CAVB sur Bourgogne-Beaujolais. Et nous, on n'appartient à personne. Il existe Inter-Loire, mais on est tellement loin, et la grosse machine Inter-Loire a fait fuir pas mal d'autres vignobles, donc on avait un peu peur de rentrer là-dedans, puis on n'avait surtout pas les moyens financiers. Donc on imaginait créer notre Interpro à 4. Voilà, ça ne s'est pas fait. On l'a pris un peu dans la tronche fort, puisqu'on y avait mis beaucoup de temps et d'espoir, avec les collègues du Rouennais. Certains collègues auvergnats, saint-pourcinois aussi, pensaient que ça pourrait aboutir. Ça s'est pas fait parce que les gens n'étaient pas prêts, parce que voilà, des tensions en COP indépendantes très fortes sur Saint-Pourçain, Côte d'Auvergne aussi, il faut appeler un chat un chat. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On a beaucoup travaillé, on se connaît maintenant, est-ce qu'on ne créerait pas une association de vignerons, de domaines, qui s'appellerait Loire Volcanique, et qui regrouperait ceux qui croient en ce qu'on a...
ce projet-là.
Voilà. Donc on a mis ça en place en 2020, ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, ça fédère au départ 36 domaines, je crois qu'aujourd'hui on est 40 ou 41. Et les choses évoluent sur les ODG Saint-Pourçain Côte d'Auvergne, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais... il y a des rencontres au programme, à nouveau entre les 4 ODG. ça prendra un temps, le temps qu'il faudra, mais dans la mesure où c'est très compliqué de faire vivre une association, tant sur le plan humain que financier, une association de vignerons, et que pourtant ces associations sont indispensables à la survie des vignobles, les collègues côté Auvergne-Saint-Pourçain se rendent compte qu'à un moment donné, cette idée à laquelle ils ont tourné le dos au départ, et sans doute pour de bonnes raisons, parce qu'on n'a pas fait que de bonnes choses, on était quand même très... On était porteur du projet côté Forêt Rouennais, donc on était très pushing et eux étaient plus sur la défensive pendant cette réflexion. Donc aujourd'hui, il y a des discussions qui sont relancées pour envisager la remise en place et la transformation de l'association Loire Volcanique en une interpro.
Ok.
Voilà. Mais clairement, depuis qu'on a fédéré en termes d'image autour de ces deux mots nos quatre vignobles, on a un retour. Notamment de la presse et du monde des professionnels du vin, inimaginable, positivement parlant.
Hein, oui, parce que c'est beaucoup plus lisible, en fait, parce que le vignoble de la Loire part de Nantes et allait jusqu'ici, et ces quatre appellations sont tellement différentes que, et peut-être au centre de la France, c'est un peu moins connu, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus lisible de se dire, ah, ok, c'est la Loire, c'est les volcans, bon, ouais. Bim, je sais où c'est, les volcans, on pense souvent à l'Auvergne, au Puy-de-Dôme, mais...
C'est ça.
Et ça marche quoi ?
En deux mots, on a situé nos vignobles. Alors pour vous, à titre de comparaison, quand moi je fais beaucoup de salons pro, quand j'essayais de faire situer le Forêt à mes clients sur ces salons, alors vous voyez la Loire, vous voyez Clermont, vous voyez Lyon, et ben on est en plein milieu.
Je savais pas qu'il y avait quelque chose entre les deux.
Voilà. Et là, ils étaient paumés. Alors qu'aujourd'hui, on leur dit Loire volcanique. En deux mots, c'est bon. Donc voilà, c'est quelque chose de hyper lisible. La Loire a une excellente image en termes de vignoble. Le volcanisme fait un peu rêver. Voilà, c'est que du positif en deux mots. Et là-dessus, le choix a été pertinent. On a mis 2 ans à accoucher de ce nom-là. Mais franchement, c'est quelque chose qui est d'une limpidité... évidente.
Et qui aide peut-être aussi les potentiels futurs installés à être rassurés sur la communication du vignoble, puisqu'on peut aussi un peu avoir peur quand on arrive et qu'on connaît des vignobles plus importants.
Voilà, ouais, l'adhésion à notre assos, elle est forfaitaire, je crois que c'est 150 € par domaine. Après, il y a une part à l'hectare, j'ai bouffé, c'est peut-être 10 ou 20 €. Et ensuite, il y a une part à l'hectolitre, donc un domaine qui démarre et qui fait 50 ou 100 hectos, ça va lui coûter, et c'est 2 € par hecto, ouais, allez, pour 400-500 balles, il a 2 salons garantis au niveau des pros dans l'année, plus le suivi par une agence de presse et la réception de journalistes, donc la possibilité de présenter des vins, ouais, pour 500 balles, c'est pas le prix d'un petit salon, quoi. Et puis on fait des réunions et on fait intervenir des techniciens sur la biodynamie, sur la vie des sols, sur voilà, il y a un volet technique qui se rajoute une ou deux fois par an et qui là encore permet à nouveaux installés d'acquérir de nouvelles compétences. Donc ça se veut quelque chose d'ouvert à tous et sur les prix qu'on pratique, clairement ça l'est.
C'est accessible.
Ouais. Ouais.
Maintenant, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un petit peu de tes vins, comment est composée ta gamme en fait ?
Oui. Alors, comme je l'ai dit précédemment, on a une petite moitié du domaine sur basalte et une autre sur des granites de différentes familles. Donc dans la gamme d'étiquetage, on a scindé le logo, une espèce de flamme volcanique sur des étiquettes, qui correspond à des cuvées qui sont 100% volcaniques ou minimum 50% de basalte. Et le reste de la gamme, c'est des étiquettes avec des espèces de paillettes de différentes couleurs, qui correspondent à des granites différents. Voilà. Donc on a aujourd'hui une gamme plutôt volcanique et une gamme plutôt granitique, avec des nuances dans les différents granites. Voilà. Sachant qu'on fait 2 blancs, qui les 2 sont sur des basaltes, la Roussanne 45% de pente, plein sud, et des Sauvignons à l'est du même volcan, de la Madone. On a un rosé qui est issu de saignée de différents rouges, et on a 6 rouges différents. On en travaille 4 en AOP, une cuvée qui s'appelle l'Amadone, moitié volcan, moitié granit. C'est la cuvée classique du domaine, sur des vignes de 15 à 20 ans. Ensuite, on a la cuvée Mémoire de Madone, une seule parcelle de vignes de 50 ans volcanique, élevée en amphore. Ensuite, on a 2 cuvées granitiques pures, la dacite, qui correspondent aux vignes qui sont autour de notre chai, sur un terroir granitique contenant un tout petit peu de calcaire, ce qui est assez rare chez nous. Il y a très très peu de calcaire dans nos sols, voire pas du tout, sauf sur les terroirs de dacite. Et enfin, un terroir migmatite, donc sur des terrains qui sont au sud du village, des micas noirs, des sols très très argileux. Ça, c'est pour la gamme d'AOP Côte du Forêt, donc évidemment des gamay noirs à jus blanc, obligatoire pour ce cépage. Et ensuite, on a, nous, fait le choix de planter des gamay à jus rouge, des gamay teinturiers, enfin semi-teinturiers. Donc on a 2 cuvées en gamay teinturier pur ou assemblé. Une cuvée qui s'appelle le Gamez, apostrophe S, qui est 50% gamay de bouse, 50% gamay noir, sur des basaltes, au pied de la Madone, sans soufre. On fait 2 cuvées sans soufre, les 2 sont sur des gamay, sont faits à base de gamay à jus rouge. Et une autre cuvée qui, elle, est issue de majoritairement gamay de bouse, un peu de gamay de chaunay et un tout petit peu de gamaret, à 600 mètres d'altitude, sur de la migmatite, qui s'appelle les rouges au Duclos, travaillés aussi sans soufre. Voilà pour ce qui est des rouges. Et enfin, on fait maintenant un pet-nat, qui avant était une méthode ancestrale, maintenant on le fait plutôt en pet-nat, donc avec une pression un peu plus basse, qu'on dégorge, qui s'appelle les bulles rouges de Madone. Et là, c'est une presse directe de gamay de chaudenay, avec un tout petit peu de gamay de bouse. Donc c'est un rouge rosé foncé en fait, hein, parce que les gamay chaudenay, bouse et fréau sont des semi-teinturiers, empyrographiquement parlant, ce qui veut dire qu'ils sont très légèrement rouges. Voilà. Donc au total, on a 10 cuvées dans la gamme.
Et si on veut goûter tes vins, où est-ce qu'on peut les retrouver ?
On travaille uniquement avec le réseau TRAD, nous en France. On vend au domaine, mais comme on est situé un peu à l'écart des routes, on a peu de clients. Et on privilégie la vente via des revendeurs. On travaille avec une vingtaine d'agents sur la France et on fait à peu près 40% à l'export. Donc, des cavistes plutôt orientés bio, biodine, nature, c'est la base de nos clients, que ce soit en France ou à l'étranger. Et puis la belle restauration, on a de plus en plus de jolis restos qui s'intéressent à des vins comme les nôtres, essentiellement sur des créneaux printemps-été. Mais quand même une vraie demande et une vraie attente par rapport à la fraîcheur, au degré moyen, et puis on le disait tout à l'heure, au retour en force du gamay, pour son côté fruit-plaisir.
Est-ce que tu aurais une fourchette de prix à nous donner sur cette gamme ?
Ouais, les vins vont de 13 à 20 euros au domaine, et on les retrouve sensiblement à ces prix-là chez les cavistes.
Est-ce qu'il y a un vigneron que tu aimerais écouter à ta place sur notre podcast ?
J'aimerais bien écouter ce qu'a dit Fred Niger sur le Muscadet, parce qu'il fait partie de ces gens qui ont tiré vers le haut ce vignoble, avec un côté un peu perché qui m'a toujours... qui m'a toujours fait marrer. J'aimerais bien écouter ce qu'il peut raconter sur son vignoble.
Parfait, c'est la demande la plus facile. L'épisode est enregistré, il ne va pas tarder de sortir. Donc, c'est nickel, merci beaucoup. Merci à toi.
À vous tous, à vous deux.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en parler autour de vous. Comme vous l'aurez compris, le but de ce podcast, c'est aussi de confronter les différents avis. Si vous avez des remarques, des compléments d'information, vous pouvez les inscrire en commentaire ou sur Instagram. Nous sommes aussi joignables par email, toutes les informations sont dans la description. Boom, boom, boom.
Dum 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 d